Bon, donc juste pour ce que nous intéresse en anesthésie, les côtés, les choses qui expliquent les problèmes qu'on va avoir en anesthésie, c'est donc la cornée gauche est perfusée à travers une collatéralité. Donc la cornée gauche, elle naît de l'artère pulmonaire, mais le problème, c'est que, comme Daniela vous a expliqué, la pression dans l'artère pulmonaire va diminuer au fur et à mesure du temps, et au bout d'un mois, l'enfant aura des pressions pulmonaires basses. Donc la pression dans la cornée gauche sera basse. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est la cornée droite qui va perfuser le cœur, y compris tout le réseau de la cornée gauche, à travers une collatéralité. Et donc, il va y avoir un vol diastolique de la cornée droite vers la cornée gauche. Et comme le myocarde est perfusé en diastole, ça tombe mal. Et donc, du coup, il y a une ischémie sous-endocardique qui s'installe dès que les pressions pulmonaires baissent chez l'enfant. Et ça s'installe très progressivement. Vous n'allez pas avoir un infarctus brutal, vous allez, comme vous expliquez, pas avoir forcément la douleur typique d'infarctus. Ça va se constituer à bas bruit. Également, ça va ischémier les piliers mitraux et l'insuffisance mitrale, pareil, va s'installer à bas bruit. C'est pour ça que l'enfant, très longtemps, va bien. Donc l'insuffisance mitrale n'est pas uniquement par ischémie des piliers, mais y compris par la dilatation de l'anneau suite à l'ischémie et la dilatation du ventricule. Donc ça tombe mal parce que ça arrive à un moment où physiologiquement l'enfant devient anémique. C'est le moment où l'hémoglobine F est remplacée par l'hémoglobine A. L'hémoglobine A a une moins bonne
Excusez-moi, le
affinité.
diaporama, il a disparu.
Non, mais le diaporama, vous ne l'aurez pas, vous l'avez sur votre messagerie.
Ah, parce qu'à un moment, il s'affichait sur votre image et puis il a disparu.
Oui, mais
Non,
là,
ça
je suis
marche pas.
navrée, je ne contrôle rien, donc on va
Ah,
faire
d'accord.
simple.
Ok.
Donc, comme l'hémoglobine A a une affinité moindre pour l'oxygène, l'enfant n'a pas besoin d'autant d'hémoglobine A qu'il en avait besoin d'hémoglobine F. Donc c'est l'âge où il a une anémie et c'est physiologique. Donc tout tombe mal puisque c'est à la fois l'âge où il commence à avoir un cœur ischémique et l'âge où là il a aussi une anémie. Et donc du coup, ça diminue encore plus la délivrance d'oxygène vers son myocarde. Alors, diapo suivante. Daniela vous a parlé des modes de découverte de cette maladie. Donc, la plus typique, c'est le petit nourrisson à partir d'un mois, mais la plupart du temps entre 2 et 4 mois, qui a peut-être des symptômes d'angor, mais il ne les exprime pas. Mais il a surtout des symptômes d'insuffisance cardiaque et d'une grosse cardiomégalie. Voilà, ça, c'est la plupart des patients. Alors après, il y a ceux qui viennent pour une insuffisance mitrale, dont on ne connaît pas l'étiologie et on découvre l'alcapa à ce moment-là. De plus en plus, on voit des enfants qui sont découverts de plus en plus tôt par des cardios à l'évidence de plus en plus entraînés, des enfants qui viennent pour un souffle. Et donc, c'est une découverte fortuite, puisque ce n'est pas l'alcapa qui donne le souffle. Ils ont un souffle probablement qui n'a aucune origine, mais c'est l'occasion pour découvrir l'alcapa et on en voit de plus en plus comme ça. Et donc, en quoi ça change? C'est que autant le premier groupe va vous arriver dans un grand tableau d'insuffisance cardiaque, autant le troisième groupe, il n'aura aucun signe. C'est une découverte fortuite et c'est tant mieux. Mais ce sont pas les plus nombreux. Et après, le groupe 4, c'est la mort subite chez l'adulte. Alors, en préopératoire, il sera donc très important de connaître l'état de son ventricule gauche. Et donc, comme facteur prédictif du décès postopératoire, c'est une fraction de raccourcissement effondrée, une insuffisance mitrale sévère et des signes d'infarctus à l'ECG, d'un infarctus aigu. Donc, normalement, ils ont tous des signes d'infarctus anciens, mais si en plus ils ont une ischémie en train de se constituer, là c'est un facteur de risque en plus pour qu'il meure en post-opératoire. Alors heureusement, il meurt de moins en moins, Le facteur de risque pour un post-op difficile, voire pour une ECMO post-opératoire, le fait d'arriver en état de choc cardiogénique avec un OAP, le fait d'avoir déjà des arythmies ventriculaires qui sont des signes d'une ischémie myocardique sévère, d'avoir une fraction d'éjection effondrée et une dilatation sévère du ventricule gauche. Et donc, vous voyez tout de suite que ceux qui arrivent par une découverte fortuite à l'occasion d'un souffle, eh bien, ceux-là n'ont pas, ils ont pratiquement pas de facteur de risque d'avoir des complications post-opératoires et heureusement. Alors, en anesthésie, malheureusement, tous les produits d'anesthésie sont vasodilatateurs et certains d'entre eux même inotropes négatifs. Or, cet enfant vit sur grâce à son tonus sympathique qui est au taquet. Donc, on va tout faire lorsqu'on induit l'anesthésie pour éviter de le vasoplégier. Il faut bien lui maintenir la volémie. C'est assez difficile chez ceux qui arrivent en choc parce que, comme vous le savez, quand ils sont très petits, il est un peu dur de commencer par leur poser une perfusion. Donc, on a tendance à commencer une anesthésie comme d'habitude avec un peu de sévorane et ça peut très vite tourner à la catastrophe. Il faut vraiment limiter au maximum les vasodilatateurs chez eux. Et puis, du coup, il faut être assez doué pour les perfuser. Ils sont en choc cardiogénique, donc du coup, ils sont tous vasoconstrictés. Donc, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est pas une anesthésie à confier à quelqu'un de débutant, à l'évidence. Et puis, il faut pareil, pas les endormir trop profondément, on va dire, même si ça a l'air un peu sauvage comme ça. Il faut respecter leur tonus sympathique au maximum possible. Alors, il faut respecter les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. Les résistances vasculaires pulmonaires, c'est une évidence parce que si la coronaire gauche est perfusée par l'artère pulmonaire, il ne faut surtout pas vasodilater le poumon. Donc, c'est facile à dire. Toutes les inductions en anesthésie se font en 100% d'oxygène, donc ça va forcément un peu vasodilater le poumon. Mais voilà, donc ne pas induire avec des produits, enfin ne pas faire une anesthésie très 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 profonde. Pourquoi ne pas réduire les résistances vasculaires systémiques puisqu'il y a déjà un voile diastolique vers l'artère pulmonaire. Il faut pas qu'en plus on diminue la pression diastolique à l'éjection de l'aorte et donc dans la coronaire droite également. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas une induction anesthésique des plus faciles. Alors, Régine vous a expliqué comment faire la cardioplégie chez ce patient. Évidemment, on va injecter dans l'aorte, dans la racine de l'aorte, sauf qu'il va y avoir une fuite du liquide vers l'artère pulmonaire, d'où la nécessité de clamper l'artère pulmonaire. Et puis, il y a aussi la possibilité de perfuser sélectivement la coronaire gauche une fois qu'elle a été détachée à travers l'artère pulmonaire. Mais voilà, on ne fait pas de cardioplégie dans l'artère pulmonaire elle-même, mais dans le vaisseau anormal. Et donc là, même si on n'a aucune preuve qu'une cardioplégie est meilleure que l'autre, comme on l'a dit hier, il y a quand même une espèce de consensus, en tout cas en Europe, et en tout cas en France, voilà, je ne connais pas toutes les pratiques, que franchement, cette cardioplégie devrait être faite au sang, devrait être chaude, et donc répéter assez souvent. Il est hors de question de dépasser les 20 minutes dans ce cœur qui est déjà ischémié en préopératoire. Alors, ok, la chirurgie, et ensuite on arrive au sevage de la CSC. Donc là, si c'est le cas du petit qui a eu une découverte fortuite, c'est tant mieux, ça va être une pose de CSC assez banal. Si par contre c'est le cas du petit qui arrive en choc cardiogénique, il ne faut pas s'attendre que la réimplantation de la coronaire va améliorer l'état du myocarde immédiatement. Il va falloir donc faire avec, en sachant qu'on va forcément avoir une délivrance d'oxygène qui est plus faible qu'idéalement. Et à ce moment-là, notre but sera aussi de garder la balance entre la délivrance qui est donc faible et la consommation d'oxygène. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour eux, ça va être de diminuer la consommation d'oxygène, du myocarde, mais aussi systémique. Et donc au niveau du myocarde, donc, il va falloir que l'hémoglobine soit vraiment bien normal pour l'âge. Dans ce cas-là, on va pas pouvoir poser une CEC chez un enfant qui est anémique à la fin de la CEC. Il faudra, au moment où on déclampe et on s'approche de l'arrêt et qu'on remplit, il faudra surtout pas que le pompiste remplisse brutalement le cœur gauche parce que ça le distend et comme on a dit hier, il y a une ischémie sous-endocardique qui se surajoute. Et donc là, l'intérêt du monitorage de la pression de l'oreillette gauche retrouve tout son intérêt, puisqu'elle va nous faciliter donc la surveillance du remplissage avant la pause de CEC, en plus de nous faciliter le post-opératoire, pareil pour surveiller le remplissage du monticule gauche. Donc là, éviter la distension du monticule gauche est essentiel. Donc, la pression oreillette gauche peut beaucoup nous aider et en général, elle ne doit pas dépasser 15. Lorsque vous allez avoir le cours sur la transposition des gros vaisseaux, on va vous dire qu'elle ne doit probablement pas dépasser 10, 11, 12 maximum. Là, on sait que le ventricule gauche est mauvais et donc forcément la pression sera un peu plus élevée. Mais voilà, il ne faut pas arriver à des POG qui peuvent mettre à risque l'enfant de faire un OAP en post-opératoire. Alors, il va falloir surtout qu'on joue sur les vasodilatateurs systémiques pour diminuer la consommation en oxygène du myocarde. Donc, on voit tout de suite qu'on va essayer tout faire pour ne pas trop donner de l'adrénaline, mais plutôt donner de la milrinone chez ces petits-là. Et ça fait du sens. Hier, on a parlé de l'effet néfaste des catécholamines sur la consommation d'oxygène du myocarde, puisqu'elle augmente beaucoup. En plus de ça, en augmentant beaucoup le calcium intracellulaire, les fortes doses de catécholamines prédisposent, facilitent l'apoptose. Et donc, c'est absolument pas le moment de faire ça. Donc, même si les pressions de perfusion restent basses, il faut qu'elles soient tolérables, bien sûr, mais plutôt basses et surtout pas avoir de l'hypertension post-opératoire parce qu'on a donné trop de catécholamines. Et il va falloir que ces enfants aient une analgésie, une sédation parfaite, puisqu'on va non seulement diminuer la VO2 du myocarde, puisqu'ils vont avoir une surcharge basse, mais également la VO2 systémique. Et donc, on va privilégier la milrinone. Alors, le levosimendan, là, a une indication très bonne. On va dire, puisque, comme on a dit hier, le levosimendan n'augmente pratiquement pas la VO2 du myocarde. Elle n'augmente pas le calcium intracellulaire, donc ça sera la drogue de choix. Mais comme on l'a dit hier, sa pharmacocinétique est un peu particulière, ce qui fait que le pic d'action n'est pas obtenu immédiatement après la pause de la CEC, mais le jour qui suit l'intervention. Et que pour l'instant, on n'a pas trouvé comment gérer cette pharmacocinétique, puisque si on la donne avant la CEC, bah, une grande partie du métabolite actif du levosimendan, qui circule encore pendant une semaine, sera diluée dans la CEC. Donc, je ne connais pas la solution. Je sais qu'à Bordeaux, ils aiment beaucoup donner du levosimendan même dans des pathologies un peu moins sévères. Et je sais que Nadir avait initié souvent le levosimendan en préopératoire chez ce patient avant même la CEC. Je n'ai pas cette expérience, donc je ne peux pas vous en parler, mais je peux vous dire qu'en post-opératoire, c'est une excellente drogue, mais faut-il encore laisser le temps d'agir? Et donc, du coup, vous n'allez pas avoir un effet immédiatement. Et donc, si en post-op immédiat, bah, il faut mettre un peu de catécholamine pour quand même s'en sortir, peut-être qu'il va falloir le faire. Il faudra bien sûr faire la dose minimum possible dans ce cas-là. Alors, diapositive, stratégie du sevrage. Alors, ça dépend bien sûr de l'état préopératoire. En clampant l'aorte et en faisant une cardioplégie, au potassium, comme on a dit hier, puisque c'est celle qui est la plus utilisée, eh bien, on va avoir un stenting obligatoire. Donc, non seulement on va avoir un ventricule gauche qui est altéré en préop du fait de l'ischémie, mais on va avoir en plus un stenting dû à notre cardioplégie. Ça tout dépendra de comment il était en préop. Si le VG était parfait en préop, le stenting, vous le verrez même pas et vous allez faire un sevrage simple avec les plus faibles doses possibles. Milrinone, ok, mais essayez de ne pas mettre de l'adrénaline. Si le sevrage n'est avec inotrope, plus ou moins, n'est pas possible, à ce moment-là, on peut simplement prolonger la CEC. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit hier lors de la protection myocardique. On a dit qu'un cœur qui est assisté a une VO2 qui est moins que la moitié que ce que c'est un cœur non assisté. Donc, s'il a une dette d'oxygène, le fait d'avoir une consommation d'oxygène faible lui donne la possibilité de récupérer. Et donc, rester en CEC 1 heure, 2 heures de plus peut vous faire sortir d'une situation difficile sans que vous ayez à mettre une assistante par la suite. Un Ecker, à un moment donné, c'était le protocole ALCAPA, 1 heure de CEC d'assistance une fois que le chirurgien a fini d'opérer, systématique à tout le monde. Bon, après, on avait des chirurgiens, enfin, patients qui essayaient de gratter un peu et sevraient plus vite. Bon, tout dépend de comment est votre enfant en préop. Mais s'il est en choc cardiogénique, il ne faut pas se priver de ce moyen qui est assez simple, qui ne coûte pas beaucoup, puisque une CEC d'assistance n'est pas une CEC à plein débit, l'aorte est déclampée, vous n'avez donc plus de cardioplégie à faire. Le chirurgien, vous l'envoyez pour se restaurer, et puis vous restez avec le perfusionniste tranquillement, et ça peut des fois donner. Ça, souvent, le cœur récupère à ce moment-là et vous pouvez ensuite poser la CEC. Des fois, c'est impossible hein, malgré plusieurs heures de CEC d'assistance. Et à ce moment-là, bien sûr, il faut sortir de sous ECMO. Mais l'assistance gauche, c'est rarement qu'on la pose d'emblée ici, on espère, et en l'occurrence, c'est une pathologie qui est transitoire. Et donc, du coup, une ECMO en premier lieu, puisqu'elle est plus facile à mettre en route et plus facile à sevrer qu'une assistance gauche. Diapo suivante, donc la réanimation post-opératoire. Donc là aussi, notre objectif sera d'assurer l'adéquation entre la délivrance d'oxygène qui risque d'être faible et la consommation d'oxygène. Donc on va essayer d'augmenter la délivrance d'oxygène systémique en maintenant l'hémoglobine strictement normale pour l'âge. Donc là, on a dit qu'à cet âge-là, ils ont plus les 16 d'hémoglobine des nouveau-nés. En tout cas, ils ont une anémie physiologique, mais vous n'allez pas les laisser à 10. Je pense qu'il faut les garder au-dessus de 12, c'est un minimum. Il faut surtout pas qu'ils se refroidissent. Ça crée la vasoconstriction, ça augmente la surcharge du cœur et donc ça augmente sa consommation d'oxygène, mais aussi il ne faut pas qu'il frissonne, sinon comme on a dit hier, chaque degré de température, chaque degré de temps, pardon, s'il frissonne, ils augmentent leur consommation d'oxygène puisque les muscles vont le consommer, mais il ne faut pas non plus qu'il soit hyperterme puisque on a dit hier, tout degré en température Celsius augmente la consommation d'oxygène de 11%. En thermie strict. Et puis il faut qu'ils aient une pression quand même suffisante de perfusion puisque les coronaires sont quand même perfusés les deux maintenant à partir de l'aorte. Il va falloir qu'on évite la tachycardie également, pas monter la consommation d'oxygène du cœur, qu'ils soient très bien analgésiés, sédatés. Et puis lorsqu'ils sont toujours pas bien, il faut pas les extuber. Puisque la ventilation spontanée est aussi un facteur qui augmente votre VO2 systémique. C'est pas du tout choquant de laisser un enfant en post-op ventiler quelques jours après une alcapa. Donc, ne pas augmenter la consommation d'oxygène du myocarde, on l'a déjà dit. Donc, privilégier les vasodilatateurs et le moins possible de catécholamines. Diapo suivante. L'échographie transthoracique a peu d'intérêt en termes de récupération du cœur et de récupération de l'insuffisance mitrale, qui resteront assez stables en post-op tels qu'ils étaient en pré-op, mais a un intérêt majeur dans la détection des thromboses cavitaires. Si le ventricule reste en post-op très hypokinétique, il y a un risque de thrombose cavitaire. Et donc, ces enfants nécessitent d'être anticoagulés très efficacement dès qu'on voit une espèce de contrat spontané, une espèce de sludge qui tourne dans le ventricule gauche, qui n'est pas du tout rare dans les formes sévères. Et donc, le risque à ce moment-là, si on ne fait rien, c'est que l'enfant fasse un AVC, ce qui serait vraiment trop dommage. Alors, après, à quel moment sauver les inotropes? Parce que qu'est-ce que vous allez avoir comme élément décisionnel? Ça ne sera surtout pas l'échographie, puisqu'elle restera mauvaise pendant des semaines. Ça ne sera pas l'IM non plus. Et en fait, il restera du coup à tâtonner, à essayer et à surveiller d'autres éléments. Donc là, la troponine, en l'occurrence, et la pression dans l'oreillette gauche, la POG, sont des éléments majeurs. Donc la pression dans l'oreillette gauche, puisqu'elle va vous donner un indicateur de la précharge et donc indirectement de la compliance ventriculaire. Et on sait que la compliance ventriculaire va s'améliorer au départ suite à la disparition du stoning. Donc un peu, ça c'est assez rapide, donc un peu, il récupère un peu, mais après, il récupère pas entièrement. Mais la diminution de la POG au fur et à mesure des jours vous donne déjà une indication, la compliance ventricule s'améliore, donc je peux commencer le sevrage. Pourquoi? Ces enfants seront sevrés des inotropes avant qu'ils récupèrent une fonction normale. Donc ils vont sortir en fait de la réanimation avec la fonction qu'ils avaient en préopératoire. Donc il ne faut pas non plus les laisser sous inotropes pendant des semaines. La diurèse, bien sûr, la lactatémie, mais la troponine. On a dit hier que en cardio-congénital, l'intérêt du dosage de la troponine n'est pas évident puisque en post-opératoire, puisque on ouvre des cavités, on fait des incisions sur les ventricules, sur l'infundibulum, on ferme des CIV, on met des points sur le septum. Donc tout ça donne des augmentations de la troponine. Là, en l'occurrence, on n'a pas touché au cœur, on a touché qu'aux artères. Donc normalement, on ne doit pas avoir d'augmentation de troponine. Et donc la surveillance de la troponine chez ces malades est un très très bon reflet de leur perfusion myocardique. Déjà en post-CEC, vous savez si votre protection myocardique a été bien faite, selon comment évolue la troponine. Mais même en post-opératoire, dosez là, parce que si votre troponine baisse au fur et à mesure, enfin, n'augmente pas et du coup elle reste basse, c'est le meilleur indicateur que votre cœur est bien perfusé en post-opératoire, quel que soit l'état de l'échographie. Et puis le BNP, qui est un indicateur de compliance du ventricule gauche et droit aussi un peu, puisqu'il est sécrété au niveau des oreillettes, et donc la dilatation des oreillettes due à la perte de la compliance ventriculaire fait augmenter le BNP. Donc, BNP vous permettra indirectement d'évaluer avec la pression à l'oreille gauche de suivre l'état de votre compliance ventriculaire. Et puis la radiographie, bien sûr, pour être sûr que vous n'êtes pas en OAP. Ces enfants sortiront sous IEC pendant plusieurs semaines en post-opératoire. Prochaine diapo. Donc voilà, c'est ce que je venais de dire. Il n'y a pas de raison que la troponine reste élevée en post-opératoire. À gauche, vous avez les enfants qui allaient bien et à droite, les enfants qui allaient moins bien, qui sont restés plus longtemps en réanimation. Et vous voyez, ils avaient des troponines un peu plus élevées que les autres. Alors, la mortalité périopératoire, ce sont des séries un peu anciennes maintenant, plus de 10 ans. Vous voyez, elle n'est pas nulle. Et donc, pour les anesthésistes, là, en préopératoire, les parents demandent toujours à la conseillère d'anesthésie quelle est la chance que mon bébé y reste. Voilà, je pense que les cardios les préparent déjà, mais ils vont vous reposer la question. Sachez que la mortalité est quand même supérieure à la mortalité moyenne en cardio-congénital. Donc j'ai deux cas cliniques qui sont un peu anciennes que j'ai piquées sur les diapos de Philippe Moria qui faisait ce cours il y a quelques années. Donc un cas simple et un cas compliqué. Donc ça c'est un petit de 4 mois qui arrive donc en insuffisance cardiaque et on découvre son TKA, un ventricule gauche dilaté, une IM modérée et une HTAP. Il a déjà des signes de nécrose ancienne. Et il est intubé, ventilé en préopératoire parce que son état le nécessite. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on lui met de la dobutamine, de la dopamine. Comme je vous ai dit, ce sont des anciens diapos. Aujourd'hui, on commencerait probablement plutôt avec de la milrinone, puisque que ça soit dobu, dopa, les deux sont très tachycardisantes et donc on augmente beaucoup la consommation d'oxygène myocarde. Il a donc sa chirurgie, la CEC dure un peu plus de 2 heures, un clampage aorti de 47 minutes. Et là, UF, c'est ce qu'on a dit hier, l'ultrafiltration. Donc, j'ai pas entré dans le détail du volume d'ultrafiltration qu'on fait lorsque l'on a fait le cours CEC. Là, c'est beaucoup. Mais là encore une fois, c'est un ancien cas clinique assez ancien. Il fut une période, effectivement, en équerre, où on faisait une ultrafiltration à très haut débit, assez haut débit. C'est pas du très haut débit, mais c'est quand même beaucoup. Et donc, maintenant, on ne le fait plus. On a diminué par moitié au moins le débit de ultrafiltration. En tout cas, à la fin de la CEC, le rythme est sinusal, le sujet est identique et on essaye de sevrer pendant 80 minutes, donc en assistance, mais ça ne suffit pas. Diapo suivante. Donc on met en place une assistance ventriculaire. On a opté dans ce cas-là d'emblée pour mettre une assistance ventriculaire gauche avec un circuit pompe centrifuge, donc et un circuit biocompatible. On est à 60% du débit théorique. Pourquoi? On avait dit hier qu'on veut que la valve aortique continue à s'ouvrir, surtout dans ce cas-là où on sait que le ventricule est très mauvais, pour ne pas qu'on ait des caillots qui se forment dans le ventricule gauche. Donc là, on reste à la dobutamine, dopamine. Bon, je m'excuse, j'aurais dû sortir un cas clinique un peu plus récent. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on aurait plutôt mis mirinone et puis un peu de lévocimantan. Et il a aussi de la trinitrine, comme vous voyez, la TNT. On n'en a pas parlé hier. Franchement, je ne l'ai jamais utilisé, donc franchement, je n'ai pas l'expérience. Mais pour vous dire, l'enfant a été bien vasodilaté. Et donc, vous voyez, une pression moyenne qui est acceptable, une PoG qui est à 8, donc tout va bien. Il est bien anticoagulé et il a y compris de l'AT3 donné en plus. L'AT3, il n'y a pas vraiment de consensus. On estime l'antithrombine 3. On estime que chez l'adulte, il faut qu'elle soit supérieure à 80% pour avoir une activité de l'héparine qui soit efficace. C'est à peu près ce qu'on fait en pédiatrie. En dessous de 70%, 80% d'AT3, on leur donne une dose supplémentaire. On baisse le débit d'assistance à partir de J4 et on sèvre l'assistance à J7. Mais au sevrage de l'assistance, le ventricule, il est toujours mauvais, hein. Dilaté, hypokinétique, commence à contracter péniblement, l'apex akinétique et l'IM est toujours présente. Donc, le sternum reste encore ouvert jusqu'à J9 et puis à J10, il se réveille brutalement et là, l'OG monte à 20 et donc réflexe immédiat, rendormissement immédiatement pour recontrôler la PoG avant qu'il se mette en OAP. Et vous voyez, il est extubé à J16, on arrête le support inotrope à J18 et il sort à J20 sous l'opril et la Zilix. Donc ça, c'était un cas compliqué. Celui-ci, il a 5 semaines, donc il est découvert plus tôt. Ça aussi, c'est un bon signe. Ça veut dire que son ventricule a moins souffert. Il a quand même des signes d'insuffisance cardiaque, une fraction de raccouissement à 20%. Il est très hypokinétique et il a une hypertension pulmonaire. Alors, la réimplantation est un peu moins longue. Elle dure 1 heure et demie. Le clampage est plus court aussi. On fait 30 minutes d'assistance. Là, on est un peu, c'est un cas un peu plus récent. Les chirurgiens étaient un peu plus impatients. Mais l'enfant ne va pas mal. Il a un POG à 15 et il a de l'amiodarone. En revanche, il a, à mon goût, un peu beaucoup d'adrénaline. 0,2 gamma, c'est une bonne dose. Et par précaution, il reste sternum ouvert. Diapo suivante. En échographie, son ventricule est toujours dilaté, évidemment comme en pré-op. Et donc, l'IM est toujours présente. À J1, pareil. Le problème, c'est qu'il fait une poussée de tachycardie. Donc, il a besoin d'être traité par digoxine et cordarone. La troponine n'augmente pas beaucoup, donc tant mieux. À J4, il retrouve son rythme sinusal. L'échographie est toujours idem. Il y a toujours un mauvais ventricule. Et en plus de ça, il y a un contrat spontané. Il n'y a pas encore de thrombus. Donc, on commence l'épariné et on lui donne l'antithrombine 3. J4, fermeture sternale. Diapo suivante, extubation à J6. Avec une POG à 10 et une troponine très basse. Quelques jours plus tard, on arrête les supports inotropes. Et à J9, le ventricule est toujours dilaté. Il a récupéré un peu de son IM. Mais voyez, il est toujours pas parfait à J9. Il n'y a plus de contrat spontané. Et à J11, le petit sort de la réanimation sous l'opril. Donc ça, c'est une évolution assez standard de celui-ci. Il y a toujours des petits problèmes, mais voilà, il n'y a pas d'ECMO et ils sont extubés, comme vous voyez, pas très tôt, hein, quand ils arrivent avec des signes d'insuffisance cardiaque. Et puis là, si on avait à faire le cas du petit qui est découvert à l'occasion d'un souffle anodin, découvert fortuite, ben là, ça serait sorti à J2. Et aucun souci. Mais j'ai pas de diapo pour illustrer ça. Donc en conclusion, il va falloir s'adapter aux patients. Toute votre stratégie dépendra de la fonction myocardique préopératoire. Toujours penser que même si on n'a pas un très bon cœur, on peut quand même assurer la réanimation puisqu'il ne reste qu'à faire la balance consommation d'oxygène et délivrance d'oxygène. C'est pas un drame si votre petit reste sédaté ou ventilé pendant plusieurs jours. L'important, c'est qu'il ait une lactate bas. L'échographie est très peu contributive et elle sert surtout à détecter les thromboses intracavitaires. Et en revanche, la pression dans l'oreillette gauche, c'est un très bon moyen de monitoring et je rajouterai la troponine post-opératoire également. Il faut rester très patient et très prudent avec ce type de patient. Voilà, encore désolé pour le retard en démarrage. Avez-vous des questions? Sur quels critères vous orientez la sortie d'ECMO en post-opératoire? On diminue le débit d'ECMO déjà et on voit ce qui se passe. On voit le retentissement sur la pression oreillette gauche, on voit le retentissement sur la lactate et la troponine. Et je pense que c'est grosso modo, c'est comme ça qu'on va naviguer. C'est pas sur la récupération de la fonction ventriculaire gauche. Alors, KT1G en systématique, donc. Moi, je dirais oui. Maintenant, il y a des centres qui sont extrêmement réticents à la pose du KKOG. Et c'est vrai que ça demande quand même, c'est quand même pas dénué de risque. Un cathéter dans l'oreillette gauche, n'importe quoi qui est injecté dessus va arriver dans le ventricule gauche et peut aller directement au cerveau. Donc, il y a un fort risque dans une équipe qui est moins rodée, moins expérimentée, avec des étudiants, des infirmières en stage et tout ça, que quelqu'un fasse une injection de quelque chose qu'il faut pas directement dans l'oreillette gauche. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont très réticentes à ça. Et donc, après, on a d'autres moyens de surveiller la pression dans l'oreillette gauche. Si l'enfant a un foramen ovale perméable, les échographies peuvent mesurer le gradient entre les deux oreillettes. Et puis, la pression dans l'oreillette droite, vous l'avez puisque vous avez une pression veineuse centrale. Et donc, vous pouvez estimer éventuellement la pression dans l'oreillette gauche comme ça. Dans l'idéal, ça serait oui, POG pour tout le monde. Mais si dans votre centre, il n'y a pas les moyens pour surveiller qu'il n'y ait rien qui est injecté dans l'oreillette gauche, à ce moment-là, il va falloir s'en passer, malheureusement, parce que le risque, le prix à payer en cas d'accident est quand même beaucoup trop élevé. Alors, rythme des échos en post-op. Alors, que ce soit un Necker ou un Maryland, on fait une échographie par jour. S'il y a un contrat spontané, je pense que le cardiologue repassera une deuxième fois dans la journée juste pour s'assurer que ça augmente pas. Mais il n'y a pas intérêt à rester à faire un monitoring plus rapproché que ça. Le cas où il y a une ECMO en post-op, est-ce que vous déchargez systématiquement? Merci, oui. Ça serait l'idéal de les charger, bien sûr, parce que l'objectif de l'ECMO, c'est de décharger les cavités gauches pour qu'ils puissent récupérer. Donc, oui, dans l'idéal, oui. Alors, après, quel type de décharge? Il n'y a peut-être pas forcément besoin de mettre un cathéter supplémentaire, une cannule supplémentaire de décharge. On peut aussi décharger par une CIA qui est large. Jamais de soins en grande, en pédiatrie, non. Et puis surtout, dans cette pathologie, quel est l'intérêt de connaître le débit cardiaque? Vous savez qu'il est bas. Donc finalement, vous, ce que vous allez faire, vous allez essayer de trouver une balance entre la consommation et le transport d'oxygène. Donc si le débit est bas et le transport est bas, bah, vous allez diminuer la consommation et vous allez vous guider sur des éléments indirects, la diurèse, le lactate. Et donc si ça c'est bas, c'est bien, bah, ça voudrait dire que votre balance est acquise. Non, la soin de gant, c'est quand même quelque chose d'assez invasif. Depuis que j'ai commencé, je ne l'ai jamais vu utiliser, à part dans les transplantations chez les grands, car là, on a vraiment besoin de monitorer les pressions pulmonaires. Alors, ça semble s'être arrêté.